Nous commençons ce matin notre thème que nous avons introduit hier soir, les enseignements du Dieu qui ne peut mentir. Et nous vous avons dit que nous avions été conduits à choisir l'épître de Paul à Tite qui doit nous servir de toile de fond afin que vous puissiez vous-même, en rentrant dans vos demeures, même avant d'avoir les cassettes, si vous prenez les cassettes, réentendre ces enseignements, car ils se trouvent condensés dans cette petite épître. Et comme cela, vous saurez avec certitude que ce ne sont pas les enseignements d'un homme d'aujourd'hui, mais les enseignements que l'apôtre Paul avait lui-même reçus du Seigneur glorifié, puisqu'il ne l'avait pas connu lorsque Jésus allait de lieu en lieu dans son corps de chair. Paul ne l'a pas connu ainsi. Il a connu le Christ dans la gloire par une révélation, mais ce qu'il a entendu du Christ dans cette révélation correspondait en tout point à l'enseignement qu'avaient reçu les apôtres qui, eux, avaient été les contemporains de Jésus. Paul peut être appelé apôtre parce que lui aussi a vu le Seigneur, mais il l'a vu, lui, dans la gloire. Donc nous avons dans le Nouveau Testament deux sources de révélation. La révélation des apôtres qui ont connu Jésus-Christ, qui ont marché avec lui sur la terre, et la révélation que ce Saul de Tarse, converti par le Seigneur, a reçu du Seigneur dans la gloire. Et c'est un même enseignement, de sorte que les paroles de Paul sont aussi les paroles du Seigneur. Et ce que je voudrais tout de suite souligner ici, c'est que les paroles du Seigneur, il l'a dit lui-même à plusieurs reprises, n'étaient pas les siennes propres, c'était les paroles qu'il avait entendues de son Père. De telle manière que les paroles que nous lisons dans l'Écriture sont des paroles de Dieu, d'un Dieu qui ne peut pas mentir. Parce qu'il y a, s'il y a une chose qui est impossible à Dieu, parce qu'il y a une chose qui est impossible à Dieu, c'est qu'il mente. Alors, cette impossibilité dans laquelle se trouve Dieu est quelque chose de merveilleux pour nous, parce que cela nous dit que toutes les promesses que Dieu a faites sont vérités et que nous pouvons nous en emparer et que ces promesses doivent mettre dans nos cœurs des certitudes qui sont des certitudes divines, non pas de vagues espérances qui pourraient nous tromper, mais des convictions. Nous sommes certains de ces choses. Les promesses du Seigneur s'accompliront. Et c'est pourquoi je vous disais déjà hier soir que ce thème nous avait été donné en lisant cet épître à Tite au verset deuxième où, que vous avez lu ce matin, où il est parlé de ce Dieu qui ne peut pas mentir. Il ne nous ment point. Et cette expression que Dieu ne nous ment point se retrouve depuis le commencement de la Bible jusqu'à la fin. Et je voudrais que, pour débuter dans cet exposé, vous ayez réellement cette certitude que Dieu, qui nous a donné dans la Bible sa parole par divers hommes, n'a pas pu nous mentir. Je vous cite simplement dans le livre des Nombres, donc c'est dans les livres de Moïse, c'est le troisième livre de Moïse, le livre des Nombres, au verset 23e. Un verset qui a été pour moi comme un clou enfoncé un certain jour dans mon cœur par le Seigneur lui-même. Verset 19e. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Quand cette parole m'a été donnée à 3h du matin, dans la nuit, dans un hôpital en Suisse, eh bien, vous savez, c'était une parole de Dieu. Alors que tout s'écroulait pour moi, le Seigneur m'a parlé ainsi et il a réalisé cette parole. Nous pouvons mettre notre confiance en lui. Prenez maintenant dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 29, pour confirmer ce que l'apôtre Paul dit. Et vous voyez que l'apôtre Paul se conforme à l'Ancien Testament, à l'Écriture. Ce n'est pas les idées de Saint Paul, c'était déjà du temps de Moïse. Et celui qui a dû dire cette parole, c'était un faux prophète, il s'appelait Balaam. Mais il a été obligé de dire cette parole, que Dieu n'était pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël, ou une autre version dit, la surconfiance d'Israël. Est-ce que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, est-ce qu'il est votre surconfiance? Est-ce que vous connaissez le vrai Dieu? Le Dieu unique, béni soit-il. Eh bien, lui, il est la force d'Israël. Est-ce qu'il est votre force aujourd'hui en 1984? Il est dit, il ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Psaume maintenant 89, voilà que nous arrivons, après les livres historiques, au centre de la Bible, à un psaume, 89, versets 35 et 37. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Vous pouvez vous mettre à la place de David, parce que David a été un homme aux mêmes passions que nous. Si Paul dit qu'il a été le premier ou le pire des pécheurs, vous savez aussi que David n'a pas été toujours magnifique dans sa conduite. Il a eu aussi des péchés. Eh bien, Dieu dit, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Pourquoi? Parce que David s'est reconnu pécheur. David a demandé pardon à Dieu. Il a pleuré sur son péché. Il a appelé son péché péché. Et même il a écrit un psaume qui raconte sa faute. Et ce psaume était lu devant tous dans le temple d'Israël, dans le temple de Jérusalem. C'est quel psaume? 51, le Miséréré. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans les cieux est fidèle. Ah, quelle chose merveilleuse, hein, de savoir que nous avons un témoin dans les cieux et qui est fidèle. Ce témoin fidèle, c'est celui qui s'est laissé crucifier à Golgotha dans son amour pour nous. C'est pas rien. Il a fait quelque chose pour nous. Alors il est votre témoin fidèle. si vous avez reconnu que vous étiez un pécheur, parce que vous ne voulez pas être un pécheur, alors il n'est pas venu pour vous. Il est venu pour sauver des pécheurs, des perdus. Prenez maintenant Habacuc. Oh, vous me direz, mais Habacuc, c'est où? C'est pas dans le Nouveau Testament, non. C'est dans les petits prophètes, pas petits parce qu'ils sont de petite taille, mais parce que leurs écrits sont plus courts que ceux qu'on appelle les grands, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, qui ont écrit beaucoup. Hein. Mais les petits prophètes, bien, Habacuc, c'est dans l'Ancien Testament, il est dit, chapitre 2, versets 2 à 3, « L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie, donc les événements qui vont venir, grave-la sur des tables. » Il n'y avait pas encore l'imprimerie, hein. Alors il fallait graver ça sur des tables de pierre. « Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Donc la prophétie, c'est pour être lue. Et si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, qui est un livre de prophétie, hein, bienheureux celui qui lit. Hein. La prophétie, elle a été écrite pour être lue et pour être comprise et pour avoir une influence sur notre comportement de tous les jours. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira point, même s'il s'est passé des siècles et que ça n'est pas encore réalisé. La première prophétie concernant la venue d'un libérateur, elle a été faite 4000 ans avant qu'elle ne se réalise. 4 siècles, mais 4 millénaires. Mais pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, quand vous avez demandé quelque chose au Seigneur, en vous appuyant sur une parole, bien, peut-être que pour lui, ce n'est pas encore le moment, parce qu'il choisit le moment pour vous exaucer. Alors, ne doutez pas. Ne dites pas, il ne m'a pas exaucé. Mais si vous avez demandé réellement quelque chose qui est selon sa volonté, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez, vous la verrez s'accomplir. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Puis vous voyez, il est dit de nouveau, elle s'accomplira, peut-être, certainement. Vous voyez que entre le Nouveau Testament et l'Ancien, c'est toujours la même chose. Ce sont des paroles certaines, des paroles véritables. Et Dieu veut qu'aujourd'hui, nous ayons des convictions, des certitudes. Maintenant, on prend le Nouveau Testament. Dans Romains 11, par exemple, verset 29, je vous aurais cité seulement 7 passages, par contre, peut-être pas s'allonger, mais c'est quelque chose de capital. Il dit, Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Et il est question ici d'Israël. Et cela nous dit que tout n'est pas fini pour Israël. Ce que Dieu a dit au sujet d'Israël aura son accomplissement, mais en son temps. J'ai parlé de Moïse. Moïse, en son temps, a voulu devancer l'heure. Et ça a été l'échec. Mais quand l'heure fut venue, alors que Moïse n'y comptait plus, Dieu s'est servi de lui pour délivrer Israël. Mais il y a l'heure de Dieu. Mais Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Prenez maintenant Hébreux 6, verset 18, un autre verset où il est dit qu'il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Donc, vous voyez que le texte de Tite est confirmé par tous ces passages. Et je lis un dernier verset dans Jacques. L'apôtre Jacques, enfin le frère du Seigneur, comme il est appelé, Jacques est après l'épître aux Hébreux, il est dit au verset 17e, on le verrait déjà depuis le verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères. » Vous êtes d'accord de ne pas vous y tromper ? Ne vous y trompez pas, mes frères et mes sœurs. Toute grâce excellente, on vous a souhaité la grâce, et tout don parfait descendent d'en haut. Un verset 17, je ne l'avais pas dit. Oui, je dis 16, et puis après le verset 17. Hein. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors, mes amis, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures, une race réellement nouvelle. Voilà des textes de l'Écriture qui vous montrent que Dieu ne saurait mentir. Les enseignements du Dieu qui ne peut mentir. Alors, quels sont ces enseignements? Je l'ai dit et je le répète, nous avons choisi l'épître de l'apôtre Paul à Tite, parce qu'elle est particulièrement remarquable en ce qu'elle renferme dans un très petit volume un nombre considérable d'enseignements, comprenant la doctrine, la morale et la discipline spécifiquement chrétienne. Alors nous prenons maintenant le texte. Vous voyez que j'ai toutes ces Bibles, c'est simplement des versions différentes, mais qui nous aide peut-être à comprendre un mot que peut-être dans une traduction on n'aurait plus de difficulté à saisir. Ce matin, vous vous êtes mis à l'écoute de cette parole. Vous avez vu l'introduction. Et dans ces quatre premiers versets, quels sont les enseignements doctrinaux ou moraux déjà que vous avez pu discerner? D'abord, nous avons l'expéditeur de la lettre. Comment s'appelle-t-il? Paul. Je ne peux pas m'arrêter là longuement sur ce qu'est Paul, vous le savez. Lisez le livre des Actes, vous verrez que c'était un juif convaincu d'être dans la vraie religion. Il était de la secte la plus exacte qui suivait la tradition de ses pères, il était pharisien. Et il pensait être donc dans la vérité. Quant à la justice qui est selon la loi, parce qu'il observait bien la loi, il disait, moi je suis sans reproche. Il pouvait s'examiner devant les commandements du Seigneur et sa conscience ne lui reprochait rien. Il avait été bien instruit, il connaissait bien les Écritures, il avait eu un bon maître à Jérusalem où il avait fait ses études, qui s'appelait Gamaliel. Et il était en quelque sorte, quoique très jeune, il était un espoir de sa nation, parce qu'il y a toujours des hommes qui regardent à ceux qui pourront être des leaders, des conducteurs. Mais Saul de Tarse croyait les mensonges des gardiens du tombeau du Christ qui avaient été payés par les souverains sacrificateurs pour dire qu'on avait enlevé le corps du Seigneur. De sorte que ce Saul de Tarse croyait sincèrement que les apôtres étaient des imposteurs et qu'en allant raconter partout que Jésus était ressuscité, il mettait en danger la religion juive. Parce que les juifs qui écoutaient les apôtres et qui se convertissaient au Christ, eh bien, forcément, abandonnaient le judaïsme et se rassemblaient en communautés qui sont devenues des églises, ou l'église, hein, depuis la Pentecôte. De sorte que sa tâche à ce Saul de Tarse, c'était de détruire le christianisme dans l'œuf. Et il était devenu donc le persécuteur des chrétiens. Un blasphémateur. Il blasphémait le nom de Jésus. Parce que pour lui, Jésus pourrissait quelque part dans le sol où les disciples, ayant enlevé son corps, l'avaient finalement enseveli. Parce que on ne peut pas garder un corps, même si on le coupe en morceaux dans un frigidaire, hein, comme ça s'est fait il n'y a pas si longtemps, dans notre beau Québec. Bon. Eh bien, lui pensait que Jésus, c'était un imposteur, qu'il avait mérité d'être crucifié, que les chefs ne pouvaient pas se tromper, ils étaient les détenteurs de la vraie religion, et que ces apôtres étaient vraiment des sectaires, des illuminés, surtout qu'il y avait pas mal de femmes dans la troupe qui suivait Jésus. Et vous connaissez toute son histoire de ce Saul de Tarse. Et comment un jour, alors qu'il n'était pas seulement content d'avoir persécuté à Jérusalem, il allait à Damas, et sur le chemin, il a été arrêté par une voix qu'il entendait du ciel, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Et tout a commencé là. Et je n'insiste pas, vous lirez ça dans les actes, conversion de Saul de Tarse. Chapitre 9, chapitre 22, chapitre 26, trois fois, nous trouvons le récit de la conversion de cet homme, qui a été donc choisi par Dieu, alors qu'il était un ennemi du Christ, pour devenir le propagateur de cet évangile, et d'apporter cette bonne nouvelle, même, non pas seulement aux Juifs, mais spécialement aux païens. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais le Dieu de tous les hommes, de l'humanité tout entière. Et Dieu n'a jamais voulu seulement sauver les Juifs, hein, mais il avait choisi ce peuple pour que ce peuple soit témoin auprès de toutes les nations de la vérité. Et puis, ensuite, eh bien, il voulait amener le salut à toutes les nations. C'est là la pensée de Dieu. Alors, Paul est donc serviteur de Dieu. Littéralement, quand on lit la traduction la plus littérale, c'est qui vient du grec, donc c'est doulos. C'est Paul esclave de Dieu. Avant, il était esclave de lui-même, de ses passions, de ses idées. Il pensait qu'il était sincère. Puis il a découvert que sincérité n'était pas synonyme de vérité. On entend des gens, il suffit d'être sincère, puis ça ira. Non, vous pouvez être sincère et être dans l'erreur. Il faut bien comprendre ça. Alors, il est maintenant devenu le serviteur, l'esclave de Jésus-Christ. Oh, quelle belle expression. C'est le plus doux des esclavages. C'est le véritable esclavage qui donne la liberté. En dehors de l'esclavage de Jésus-Christ, il n'existe pas de liberté réelle. On est réellement libre quand on peut faire ce que Dieu veut. On est réellement libre quand on laisse Dieu faire avec nous ce qu'il entend. Quand on laisse Dieu accomplir en nous sa volonté. Alors, vous voilà libre. De sorte que son titre de gloire, c'est d'être esclave. C'est-à-dire serviteur de Dieu, comme l'ont été Moïse, comme l'a été Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Mais le Dieu de Moïse n'étant pas mort, comme j'ai été avec Moïse, dit-il à Josué, je serai avec toi. Est-ce que vous croyez qu'il veut être avec vous? Il peut l'être aujourd'hui, en 1984. Donc, est-ce que nous voulons être réellement aussi au service de Dieu? Mais il n'est pas seulement serviteur de Dieu, il est apôtre de Jésus-Christ. Un apôtre, c'est un envoyé. Mais dans l'Évangile, nous voyons, et spécialement dans les Actes, que pour porter le titre d'apôtre, pour être vraiment un apôtre, combien est-ce qu'il y en avait au temps de Jésus? Jésus en avait choisi 12, mais un ayant été traître, il a été remplacé. Nous lisons cela dans les Actes, chapitre 1er. Mais la condition pour pouvoir être apôtre, il fallait avoir connu Jésus au baptême de Jean, quand il avait commencé son ministère, alors qu'il avait environ 30 ans, et l'avoir vu crucifié, ressuscité et élevé dans la gloire. Avoir été compagnon de Jésus depuis son baptême jusqu'à son ascension dans le ciel d'où il disait être venu. Voilà ce qu'était un apôtre. Et au temps où, juste après la Pentecôte, c'est-à-dire avant la Pentecôte, avant la Pentecôte, juste après que Jésus soit monté au ciel, il n'y avait que deux personnes qui remplissaient ces conditions. Et on a tiré au sort en priant, et Matthias a été nommé pour remplacer Judas. Alors, c'est pour ça que certains ont contesté le titre que Paul se donnait d'être apôtre, parce qu'il fallait avoir vu le Seigneur. Mais Paul est une exception, parce qu'il a pu dire, mais n'ai-je pas vu le Seigneur? Lui, il l'avait vu, mais pas dans son corps de chair, il l'avait vu glorifié, dans la gloire. Il l'avait vu glorifié. Et pour Paul, cette vision de Jésus avait tout balayé. Il n'y avait plus que Jésus qui comptait pour lui. Cet homme qui était venu sur la terre, qui s'était incarné, ce Dieu qui était devenu homme, car il était le vrai Dieu, Dieu de Dieu. Il s'est fait homme et il a passé par tout ce chemin de souffrance, puis ayant triomphé de tous les obstacles, ayant réglé la question des péchés, il est remonté dans le ciel où il était accueilli. Dieu l'ayant exalté et lui ayant donné, après toutes ces humiliations, un nom au-dessus de tout nom. Alors, ce Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, a été saisi par Jésus-Christ glorifié. Et pourquoi cet homme a été saisi? Il est dit pour la foi des élus de Dieu. Voilà une des premières vérités extraordinaires. Est-ce que moi je suis capable de sauver quelqu'un? Qui est-ce qui sera réellement sauvé? Ce sont les élus de Dieu. Qui est-ce qui a élu des hommes et des femmes pour le salut? C'est Dieu. Mais ces hommes et ces femmes qui ont été élus pour le salut, ils doivent apprendre à connaître ce qu'est ce salut. Ils doivent entrer dans la jouissance de ce salut. Et il faut pour cela que des hommes les enseignent, leur disent ce qu'est ce salut. Mais ce ne sont pas les hommes qui enseignent ce qu'est le salut qui sauvent. C'est Dieu qui a ses élus. Et cette élection, quand est-ce qu'elle a été décidée? Elle a été décidée, verset 2, avant les temps des siècles, c'est-à-dire avant la création du monde. Avant qu'il y ait le temps comme nous le comptons. Vous avez eu, dit Saint Paul, une place dans la pensée de Dieu avant non seulement votre existence, mais avant l'existence du premier grain de poussière de la terre. Vous aviez une place dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il voulait pour vous? La vie éternelle. Vous vous rendez compte? Alors, est-ce que vous pouvez la perdre, cette vie éternelle? Dieu, avant les temps des siècles, a promis que les créatures qu'il voulait faire auraient la vie éternelle. Et il les a prédestinées à être semblables à qui? À qui deviez-vous être semblables dans la pensée de Dieu? À son Fils unique et bien-aimé. À être comme le Christ. Vous avez cela alors développé dans les Romains, l'Épître aux Romains en chapitre 8. Il nous a connus à l'avance, et ceux qu'il a connus à l'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Nous devions devenir les frères du Seigneur, c'est-à-dire lui ressembler. Ressembler à Jésus. Vous le chantez dans un cantique. Te ressembler Jésus. Mais c'est vrai. C'est à cela que vous avez été appelés. Alors, Paul, justement, sait qu'il y a des élus. Moi aussi, je sais qu'il y a des élus. Mais qu'est-ce que je dois faire? Moi, je peux pas les sauver, mais je peux leur annoncer le salut. Et dans le chapitre 2 d'une autre épître à Timothée, il dit à son enfant Timothée, « Je souffre tout pour l'amour des élus afin qu'ils parviennent à la connaissance du salut. » C'est pas nous qui pouvons sauver, mais nous qui avons reçu la jouissance de notre salut, nous devons être prêts à tout souffrir pour que d'autres partagent ce bonheur d'avoir l'assurance de la vie éternelle et n'aient plus durant toute leur vie cette crainte de la mort qui les angoisse parce qu'on ne sait pas ce qui va suivre la mort. Quelquefois on la désire la mort pour qu'on ne souffre plus. Puis tout à coup on a peur de la mort parce qu'on sait bien que c'est peut-être pas fini après la mort. Après la mort, dit l'Écriture, suit le jugement. Et au fond, on a un peu peur de ce jugement, s'il y a un jugement. Pour quelle raison? Parce que même si on a essayé de se consoler en se disant qu'on n'est pas si mauvais que ça, on sait qu'on est des pécheurs. Et tout à coup, quand on pense qu'on va rencontrer un Dieu saint, qui est trois fois saint, je parle à un auditoire qui a entendu cela autrefois, hein, en tout cas, et qui l'entend peut-être encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez dans les offices si vous y allez encore? Saint, saint, saint est le Seigneur. Vous l'entendez? Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes des ignorants. Mais est-ce que cette parole vous a pénétré? Saint, saint, saint est le Seigneur. Alors, tout à coup, on dit, mais je serai devant un Dieu saint, et qu'est-ce que je suis? Eh bien, reprenez l'histoire biblique, et vous verrez que tous les hommes qui ont eu la révélation de cette sainteté, ils se sont effondrés. Les séraphins, les anges si purs, il est dit qu'ils se voilent la face de leurs ailes. Et nous, nous avons la prétention de vouloir voir Dieu. Et dès que nous regardons le soleil, une des créations de Dieu, nous sommes aveuglés. Et nous devons baisser la tête. Puis nous voudrions voir le créateur du soleil. Quelle folie! Heureusement que Dieu ne nous exauce pas toujours. Heureusement! Nos prétentions sont folles et amènerait notre mort. Alors Dieu nous aime assez pour ne pas toujours nous dire « Oui, oui, je vais te faire ça. » Parce que il désire votre bien et votre vie. Alors, vous voyez les enseignements du Dieu qui ne peut mentir. Il les confie à Paul. Donc, la foi des élus, pour amener donc les élus à la vraie foi. Cette foi, c'est la connaissance du christianisme. La foi ici est l'ensemble des vérités chrétiennes. Nous avons eu une retraite ici sur la foi, ce qu'est la foi. Ici, amener les gens à la connaissance de la foi des élus de Dieu, c'est l'ensemble des vérités du christianisme. Donc, arriver à amener les élus de Dieu à la connaissance de la vérité. Et qu'est-ce que c'est que la vérité, alors? C'est Pilate qui demandait cela à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? La connaissance de la vérité. Oh, je sais, hein, plusieurs sont encore aux études ou veulent parfaire leurs études. Mais quelle connaissance est-ce qu'on vous donne dans toutes ces écoles? Il y a des connaissances qui sont très utiles pour vivre, hein. Mais est-ce qu'on vous donne la connaissance de la vérité qui est selon la piété? Est-ce que les connaissances que vous acquérez dans les écoles, dans les études de ce monde, est-ce que ces connaissances vous rattachent à Dieu? Vous rendent plus fidèle à Dieu? Est-ce que ces connaissances vous font aimer Dieu? Oh, je le voudrais. Que vos connaissances de mathématiques, que votre connaissance de toutes les sciences les plus modernes vous rapprochent de Dieu. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que l'on voit? Elle nous éloigne de Dieu. Alors il est question ici, vous voyez, d'une connaissance qui est selon la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? La piété, c'est ce qui caractérise nos relations avec Dieu. Être pieux, c'est être en relation personnelle avec Dieu. Je reprends encore cette parole de Jean-Paul II. Qu'en est-il de votre relation personnelle avec Dieu? Est-ce que vous avez une piété réelle, profonde, intime, personnelle? Être pieux, c'est pas simplement venir aux offices, venir à l'église, suivre des réunions évangéliques, distribuer des traités, tout cela peut être fait, tout cela est bon, mais c'est pas cela la piété. La piété, c'est un contact constant avec le Seigneur. Dieu compte dans notre vie et il passe en premier. La vérité qui est selon la piété. La piété, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un mystère, la piété. Il l'est dit, le mystère de la piété est grand. Qu'est-ce que c'est? Dieu manifesté en chair. Vous rendez-vous compte. La piété, c'est ce secret extraordinaire. Comment on peut être en relation avec Dieu? Dieu, on ne l'a pas vu, hein? Et pourtant, il s'est manifesté. Quand? Comment? En Jésus-Christ, Dieu a été manifesté dans un corps de chair. Ce monde qui voulait voir Dieu, il a pu le voir. Et même ses mains humaines, si impures, ont pu toucher le sein de Dieu en touchant Jésus. Oh, la femme qui souffrait d'une maladie depuis 12 ans, quand elle l'a eu touché, elle a connu en son corps qu'elle était guérie. Une puissance sortait de celui qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la connaissance de la vérité qui est selon la piété? C'est la connaissance de quelqu'un. La vérité, c'est quelqu'un. C'est qui? C'est Jésus. La connaissance de la vérité, c'est connaître Jésus. Et connaître Jésus, eh bien, c'est avoir la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle, disait Jésus, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Parce que on ne connaît le vrai Dieu qu'en Jésus-Christ. Alors vous voyez, on pourrait s'arrêter des heures sur ce seul verset, la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Lesquels, donc, la foi des élus de Dieu, la connaissance de la vérité, ces deux choses reposent sur l'espérance de la vie éternelle qui a été promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Vous voyez que Dieu a des promesses merveilleuses et qui a été manifestée quand? Qui a manifesté sa parole en son temps. C'est pas au jour où Adam a chuté que ça a été manifesté. La promesse a été faite à Adam en chute. Mais cette promesse n'a été réalisée qu'en son temps. Si la prophétie tarde, qu'est-ce qu'il est dit? Attends-la, attends-la. Je vais vous dire, oh, mais il y a des siècles qu'on l'attend. Mais il n'y en avait plus beaucoup qui attendaient la venue de ce Messie. Combien était-il? Un petit groupe en Israël, revenu de la captivité, qui attendait la venue du libérateur. Et parmi ce petit groupe, il y avait en particulier une femme qui s'appelait Marie et qui était une jeune fille. Une jeune fille vierge sur laquelle la parole de Dieu avait une autorité. Elle ne s'était pas laissée corrompre par les mœurs du temps. Parce que vous savez, il y avait beaucoup de soldats romains à ce temps-là. Et comme toujours, quand il y a des soldats, il faut des femmes et des jeunes. Eh bien non, elle était restée fidèle. Fiancée à Joseph. Et comme fiancée, elle n'avait pas eu des relations avant le mariage. Hein. Voilà une fille fidèle. Ça ne dit rien à nos jeunes d'aujourd'hui. Hein. On sait donc, avec tous les avortements qu'on fait aux filles de 13 ans, donc c'est quelque chose de triste, c'est quelque chose d'épouvantable. Et alors on se révolte quand on entend ces choses. Mais ce sont des choses vraies. Certaines, le monde va au-devant de la ruine, va au-devant du jugement, va au-devant de la catastrophe. car ils transgressent les lois du Seigneur. Et pourtant, ce Seigneur est un Seigneur de miséricorde. Mais vous savez, il ne ment point. Il ne ment point dans ses promesses, mais il ne ment point non plus dans ses menaces. C'est pourquoi il est temps de prendre la parole de Dieu au sérieux. Saul de Tarse, converti, devenu l'apôtre Paul, il a pris au sérieux la parole de Dieu et il a prêché cette parole. Il a manifesté sa parole en son temps, quand le temps fut venu. Ça, c'est l'incarnation. Et pour faire connaître ce salut, eh bien, c'était par la prédication. Et cette prédication avait été confiée à Paul d'après l'ordre de Dieu. Et c'était Paul qui s'était dit un jour, ça ferait quand même bien que je prêche. Comme il y en a qui disent, ça ferait quand même bien que je sois pasteur, pourquoi pas moi? Surtout quand il y a beaucoup de chômage. Peut-être que je pourrais commencer, ce serait un bon job. Surtout qu'il y a un réveil au Québec. Alors il y a tout un tas de missionnaires qui voudraient venir au Québec. Ça nous ferait gagner notre vie. Pourquoi pas? Un job comme un autre. Alors, non. Selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. Paul n'a pas écrit à quelqu'un, est-ce que vous avez du travail pour moi? Misère. Hein? Il n'a pas écrit ça. Il a reçu un ordre. Et quand on a reçu un ordre, on marche. Abraham a reçu un ordre. Va, sors de ton pays et de ta... Voilà les gens qui sont en relation avec le Seigneur. Ils ne cherchent pas du travail pour le Seigneur. Le travail, il est là devant eux. Regardez les prophètes de l'Ancien Testament. Ils étaient peut-être à d'autres occupations, puis Dieu les a pris. Regardez Ézéchiel. Il a été saisi, il a eu une main qu'il a saisie par les cheveux. Il fallait qu'il en ait, hein. Enfin, même un chauve pourrait être saisi, hein. Parce que la main est comme un aimant, la main de Dieu. Et puis il le transporte. C'est le Seigneur qui avait saisi l'apôtre Paul comme il avait saisi autrefois les prophètes. Alors voilà l'homme qui s'adresse maintenant à Tite. Je ne vais pas maintenant m'allonger sur Tite. Tite, vous ne trouverez pas son nom dans les actes des apôtres. Mais on apprend quand même bien des choses. C'est l'enfant légitime en notre commune foi. Donc, c'est pas l'enfant de la chair de Paul, puisque Paul n'était pas marié, mais Paul le reconnaît comme un enfant dans la foi. Paul a prêché, on pense que c'est à Antioche en particulier, qu'il a prêché, et là, il y avait un certain homme qui s'appelait Tite, un nom qui veut dire dans cette langue honorable, un homme bien, mais jeune, et qui s'est converti à la prédication de Paul. C'est pas Paul qui l'a sauvé, mais il a été l'instrument pour amener Tite à la connaissance du salut. C'est tout ce que l'on peut dire. Et ce Tite s'est laissé enseigner par Paul. Et nous voyons dans le chapitre 2 des Galates, parce que c'est ça, c'est comme quand on fait un mot croisé, on doit chercher dans la Bible, hein. Qu'est-ce qu'il est dit sur Tite? Alors on cherche tout ce qu'on peut trouver sur Tite. Eh bien, Tite, on apprend que Paul, quand il est allé à Jérusalem pour exposer aux apôtres ce qu'il prêchait, il a pris Tite avec lui. Parce qu'il y avait des difficultés dans l'église d'Antioche où Paul travaillait avec Barnabas, parce que des juifs convertis au christianisme étaient venus à Antioche et prétendaient que les païens, eux aussi, pour qu'ils soient vraiment sauvés, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent? Qu'ils se fassent circoncire, qu'ils aient une marque dans la chair. Alors Paul dit non, ça ne doit pas être. Mais il y a une telle dispute théologique qu'ils sont montés à Jérusalem et il a pris Tite avec lui. Et à Jérusalem, il est dit que Tite n'a pas été obligé d'être circoncis. Tite n'a pas été circoncis. Quelquefois, Paul acceptait la circoncision pour un grec, il l'a accepté pour qui? Pour Timothée. Donc, vous voyez, dans tel cas, Paul agit de cette manière, dans tel autre, il agit d'une autre manière. Il y a des exceptions aux règles. Il faut toujours dépendre du Seigneur. Pour Timothée, qui était le fils d'une femme juive, c'était bien qu'il soit circoncis quant à son origine. Mais pour Tite, qui était d'origine païenne, ce n'était pas du tout une nécessité et la circoncision ne lui apporterait rien. Et ce Tite, alors était donc un collègue aussi de Timothée. Ce titre c'est dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, que vous trouvez son nom plusieurs fois mentionné. Et nous voyons que l'apôtre Paul avait une très grande estime pour Tite, parce qu'il avait certaines capacités, il avait certains dons qui ont été utilisés plusieurs fois par Paul, spécialement pour mettre de l'ordre dans des communautés jeunes encore, mais où il y avait du trouble. Alors on voit à 4 reprises dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître, je ne vais pas vous citer tous les passages, tous les textes, ça ne vous servirait pas à grand chose, mais que Tite a été en bénédiction aux Corinthiens alors qu'il y avait tant de troubles dans ces assemblées. Et c'est pourquoi on peut comprendre qu'il s'adresse à Tite pour qu'il continue le travail qui était commencé en Crète. Et vous avez vu qu'au verset 4, d'abord à ce titre, il lui souhaite la grâce et la paix. Hein. Je pense que c'est bien compris cela. Et qui nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous pouvez souligner cela. C'est de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Ils travaillent ensemble. Alors, je t'ai laissé en Crète. Nous avons vu déjà hier ce qu'était la Crète, donc une île dans la mer Méditerranée, une des grandes îles dans la mer Égée d'un côté, et l'Afrique de l'autre, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens. Et nous ne pouvons pas nous allonger sur tout ce qui est dit dans ce chapitre, mais nous prendrons les principales exhortations qui peuvent être utiles à notre instruction. Ça nous montre que l'apôtre Paul ne faisait pas tout. Il commençait un travail dans une ville, et puis il allait plus loin, et il laissait à d'autres le soin de continuer son travail. Il l'a laissé à Apollos, à Corinthe, et dans d'autres villes, il l'a laissé aussi Timothée, par exemple, à Éphèse. Lisez les épîtres à Timothée et vous voyez que Paul parle de la même manière. Il dit, je t'ai laissé à Éphèse, afin que tu enseignes la vraie doctrine et qu'il mette aussi de l'ordre, qu'il montre dans ces églises d'Éphèse comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. Ici, il confie une tâche précise à Tite, parce que Paul est passé plus loin. Et on se demande, mais ces églises de Crète, comment est-ce qu'elles avaient vu le jour? Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on s'arrête sur ce mot Crète. Est-ce que c'est Paul qui avait commencé l'œuvre en Crète? Je ne pense pas. Parce que dans le chapitre 2 des Actes, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'au jour de la Pentecôte, il y avait plusieurs Crétois qui ont entendu l'apôtre Pierre prêcher l'Évangile. Il y avait des Crétois, lisez le chapitre 2, et qui se sont convertis au Seigneur. Et qui certainement, retournant en Crète, parce qu'on montait à Jérusalem chaque année, ils ont commencé un travail. De sorte que, quand Paul, on ne sait pas trop dans quel voyage il y aurait passé, il n'y est pas resté longtemps, mais il a trouvé déjà des communautés chrétiennes, n'est-ce pas, et qui avaient entendu l'Évangile. Il les a certainement fortifiés dans la foi, mais devant aller plus loin, eh bien, il laisse un responsable, il confie à Tite la mission de mettre de l'ordre dans ses églises. Et qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai laissé là pour que tu établisses des anciens dans chaque ville. Alors là, on pourrait parler aussi de ce terme ancien. Vous savez qu'il y en avait dans l'Ancien Testament, hein, des anciens. Du temps de Moïse, vous lisez cela au chapitre 18 du livre de l'Exode. Quand le beau-père de Moïse est venu le visiter au désert, il s'est rendu compte que toute la tâche était sur Moïse. Et alors, il lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Si c'est toi seul qui as toutes les responsabilités, tu ne vas pas y tenir. Je lis dans le chapitre 18 de l'Exode, verset 19, ou disons verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, après avoir observé tout ce que Moïse faisait comme travail dans le désert pour le peuple, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. Mais choisis parmi tout le peuple des hommes, alors là vous voyez ce qui les caractérise, des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et établis-les sur eux. Voilà l'origine déjà des anciens dans l'Ancien Testament. Nous pourrions parler des juges aussi, nous pourrions parler des hommes qui ont été choisis par David à certains postes de responsabilité. Et puis, nous voyons qu'au temps de Jésus, il y avait parmi les Juifs des anciens, hein, les anciens du peuple, hein, des hommes qui étaient choisis par la communauté et qui avaient des responsabilités. Mais quand les églises sont nées, eh bien, on a trouvé aussi bon d'établir des anciens. Et si vous voulez faire une étude sur ces anciens, lisez aussi l'épître de Paul à Timothée, ainsi que chapitre 3, ainsi que cet épître à Tite, où vous voyez alors les caractères des anciens, qu'on appelle aujourd'hui presbytres ou évêques, mais enfin plus communément dans nos milieux, des anciens. Et vous voyez qu'il est dit qu'il faut établir des anciens, pas un ancien. Dans l'église primitive, il n'y avait pas un ancien pour tous, hein, mais il y avait des anciens. Et quel caractère avait-il?
Ben, il faut que l'évêque soit, ou que l'ancien soit mari d'une seule femme et qu'il soit irréprochable. Donc, qu'on n'ait rien à lui reprocher. Qu'il ne mérite aucun reproche. Et vous avez ce fait qu'il doit être mari d'une seule femme. Pour quelle raison? Parce que parmi les païens, il y avait la polygamie. Hein? Alors, si on était polygame, on pouvait être sauvé, hein? Mais on ne pouvait pas remplir la fonction d'ancien. Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Moi, j'ai pas besoin de souligner cela. Chacun de nous, nous avons à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous pourrions porter ce caractère d'ancien. Qu'il soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Mais quand nos enfants sont petits, on se dit, ben, ça va aller. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de merveilleux. Parce que ça nous montre que, comme père, si vous désirez être ancien, parce que d'abord, pour être ancien, il faut le désirer. Pour devenir responsable, il faut soupirer après cela. Si vous désirez cette charge, c'est une œuvre agréable. C'est une parole certaine que celui qui désire être ancien, eh bien, il souhaite quelque chose qui est selon Dieu. Mais si je souhaite cela, il faut alors que je sois caractérisé par ces choses qui sont énumérées. Il y en a 14 dans le chapitre 3 de la première épître à Timothée. Et ici, on a 5 caractères négatifs et 7 caractères positifs qui doivent caractériser un ancien. En dehors du fait d'être mari d'une seule femme, d'avoir des enfants fidèles et qu'il ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Dans l'Ancien Testament, on a eu des anciens qui n'avaient pas ce caractère-là. Les fils d'Élie, par exemple, le sacrificateur. Et même les fils de Samuel les avait établis anciens. Mais est-ce qu'un père peut établir anciens ses fils? C'était là la faute de Samuel. Il fallait qu'il marche selon Dieu. C'est pas de père en fils qu'on est ancien. Et alors faisons aussi attention dans ce choix. Le Seigneur ne regarde pas à ce quoi l'homme regarde. On voit un homme qui a une belle situation. On a dit récemment, dans nos églises, c'est nous qui avons le premier dentiste sauvé. Vous vous rendez compte? Comme s'il n'y avait pas d'autres dentistes au Québec qui soient sauvés. Mais voilà, hein, il avait été baptisé. Alors c'est le premier, c'est notre église qui a le premier dentiste sauvé. Il sera drôlement petit, votre ciel, s'il n'y a qu'un dentiste. Mais nous sommes vraiment stupides. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et alors, parce qu'on aurait un dentiste, parce qu'on aurait un homme bien, un médecin ou je ne sais trop quoi dans notre église, alors il faut qu'il soit ancien. Mais est-ce qu'il en a le caractère? Il a peut-être toutes sortes de capacités pour la médecine, mais est-ce qu'il revêt ces caractères d'ancien? C'est pourquoi on ne va pas nommer simplement des gens qui sont soi-disant bien. Non, il faut que la parole de Dieu ait de l'autorité sur nos cœurs. Verset 7, il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Économe de Dieu, c'est-à-dire comme administrateur, hein, comme intendant de Dieu. On s'occupe des choses de Dieu. Alors, les caractères négatifs, faut pas qu'il soit arrogant, faut pas qu'il soit colérique. Qu'est-ce que c'est que l'arrogance? Ben, prenez un dictionnaire, c'est cette fierté qui se manifeste par une attitude hautaine et méprisante. On m'a nommé ancien. Quelle autorité est-ce que tu as pour être ancien? Qu'est-ce que ça me fait qu'on t'ait nommé ancien? Même à l'unanimité. Dans le chapitre 20 des Actes, il est dit que c'est d'abord le Saint-Esprit qui nous établit anciens dans une communauté. Il faut donc qu'il y ait le Saint-Esprit qui nous est mis à cœur d'abord. Ce désir de pouvoir servir Dieu de cette manière. Et être ancien, ce n'est pas nécessairement prêcher la parole. Il y a des anciens, on le voit dans l'Écriture, quand on étudie tout ce thème de l'ancien, ils ne sont pas nécessairement obligés de prêcher. Il est bon qu'ils soient capables d'enseigner, mais il y a des anciens qui ne sont pas nécessairement des prédicateurs et qui pourtant sont des anciens, qui sont pourtant des hommes vraiment sages et que l'on doit respecter. Verset 17 du chapitre 5 de 1 Timothée, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, puisqu'il est dit surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, c'est que tous les anciens ne sont pas prédicateurs. Ce n'est pas une nécessité. Et puis, attention, ces caractères d'anciens, ce n'est pas des dons spirituels, c'est un caractère de vie, c'est une vie, c'est pas des dons de l'esprit dont il est question ici. Ils peuvent les avoir, comme des diacres aussi peuvent en avoir. Ce n'est pas ça, mais ça c'est un caractère moral. Ils doivent être ni colériques, ni adonnés au vin, ni violents, ni portés à un gain honteux. Il y aura un tas d'autres textes qui vous confirment ces choses. Parce que il ne faudrait pas que ça devienne notre job, c'est pas ça. Mais qu'il soit hospitalier. Donc, l'ancien doit penser, je devrais exercer l'hospitalité. Et quand on doit exercer l'hospitalité, il faut l'exercer sans murmure. Donc, il faut que votre femme soit d'accord. Sans murmure. Puis, ami des gens de bien, ou ami du bien. Alors ça, maintenant, on a vu 5 caractères négatifs, maintenant on a 6 caractères positifs. Hospitalier, ami du bien, ou des gens de bien. Modéré. Il y aurait plusieurs sens aussi qui aideraient à comprendre ce qu'est modéré. C'est pondéré, c'est être raisonnable, c'est savoir réfléchir. Apporter quelque chose de juste, oui, il est dit juste. Puis saint, car qui est notre Dieu? Il est saint. Soyez saints comme je suis saint. La sainteté, c'est une marche dans la séparation du mal. Puis tempérant, ou c'est-à-dire ayant la maîtrise de soi en toute chose, ne se laissant pas dominer par une chose ou par une autre, que ce soit le vin ou que ce soit la table. Puis attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Par qui? Cette parole, elle a été enseignée par qui? Elle a été enseignée par les apôtres, et spécialement par Paul ici, mais cette parole était enseignée à Paul par qui? Par Jésus. Et la parole que Jésus donnait, c'était la parole de Dieu. Il était la parole. Alors, être attaché à la vraie parole, c'est être attaché à la personne du Seigneur, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quelle charge. Il y a dans les églises des cas difficiles où il faut pouvoir exhorter et puis réfuter des contradicteurs, parce qu'il y a dans les églises aussi des gens charnels, encore, et qui se plaisent toujours à contredire, qui viennent avec leur propre pensée, où ils ont fait profession de foi, ils ont fait profession de se convertir, ils parlent de leur décision, il y a tant de temps, mais au fond, ils ne sont pas réellement, ils n'ont pas accepté la parole du Seigneur. Ils ont accepté un certain Jésus, on leur a dit que ce Jésus était le sauveur, ils ont dit oui, mais ce n'est pas ça, c'est un sauveur qui vient en nous. Il est question réellement, comme nous le verrons, d'une nouvelle naissance. Et si on est né de nouveau, on ne sera pas parmi les contradicteurs. Comprenez-vous? On ne vient pas dans une assemblée pour contredire. On vient pour se laisser enseigner. Sans ça, il vaut mieux ne pas y aller. Puis vous, si vous cherchez, on l'a dit souvent, hein, l'assemblée la plus parfaite, hein, pour entrer dans cette assemblée, une fois que vous y serez, elle ne sera plus parfaite. Parce que vous y serez. Alors, c'est vrai. C'est ça. Vous cherchez l'église parfaite. L'église parfaite. Où est-elle? Il y a partout de la misère. Il y a partout des choses dont on doit se juger. Alors, ne vivons plus dans le jugement de nous-mêmes. Et pour savoir qui est vraiment ancien, examinons-nous d'abord nous-mêmes, puis quand nous regardons les autres, moi, les évêques, ceux qui se disent évêques, n'est-ce pas, je n'ai pas à les juger. Ils seront jugés d'après les prétentions qu'ils ont. Et si je vois un homme qu'on appelle évêque, qui aurait été nommé évêque par l'Église romaine ou autrement, eh bien, s'il en a les caractères, il aura à répondre au Seigneur. C'est pas moi qui suis le juge de l'évêque, ni même du pape. J'ai à me juger moi-même. Alors, cessez de vous juger les uns les autres. Mais j'ai à examiner vraiment, non pas comment j'ai été nommé ou comment on est nommé ancien, parce que là, il y a toutes sortes de variations. Je ne vais pas entrer dans ces discussions, dans ces disputes, qui doit nommer les anciens. Parce qu'on n'en finit plus à se disputer. Mais je dis ceci, vous dites que vous êtes ancien, ou vous voulez être ancien, est-ce que vous en avez les caractères? Ayez affaire avec le Seigneur. Finissez-en de discuter, est-ce qu'un homme divorcé peut être un ancien, etc. Est-ce qu'il en a les caractères? Est-ce que lui peut prendre cette autorité de conduire un troupeau si même on n'a pas su conduire sa maison? C'est cela qu'il nous faut. Finissez-en avec vous ces discussions et revenez simplement à la parole, à la saine doctrine, parce qu'il y a une saine doctrine qui vient du Seigneur. Parce que depuis le verset 10, alors, en opposition aux anciens, à ceux qui ont ce caractère, vous avez des contradicteurs. Il y a en effet surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire parmi ces juifs qui s'étaient convertis au Seigneur, des gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs. Ils disent être croyants, mais partout où ils vont, ils apportent la division. Ce n'est pas la personne de Christ qu'ils présentent, ce n'est pas Christ en eux que l'on voit. Ils ont toujours des idées et ils partent sur une certaine ligne et ils veulent imposer leur vue à toute l'Église. Hein? Et puis ils font des partis, ils créent des partis. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on ne crée pas des divisions. L'homme qui crée des divisions, c'est un homme qui est charnel. Les divisions, c'est l'œuvre de la chair. Alors, un homme qui sera vraiment un ancien, il devra fermer la bouche à certaines personnes. Et vous savez, on se fait des ennemis. Ces vains discoureurs, il y en a qui ont des dons charnels. C'est parce qu'ils ont de la facilité à s'exprimer. Peut-être parce qu'ils étaient vendeurs avant. Ben, on vend maintenant le nom de Jésus. Hein? Hein? Pourquoi pas? Et puis, on sait, on a des arguments. Mais est-ce que c'est cela que le Seigneur veut? Ça bouleverse des familles entières. Puis, il y en a qui enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Alors, je demande d'être comme l'apôtre Paul. Lui, il n'a jamais enseigné pour un gain honteux. Il a plutôt voulu, quand il était dans le besoin, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait de ses mains. Il travaillait de ses mains et il n'a pas cherché à se faire bien voir parmi les riches pour recevoir des dons. Non, il avait ça en horreur. Il voulait être à la charge de personne. Il avait affaire avec Dieu parce que c'était l'économe de Dieu. Alors il a dû fermer la bouche à plusieurs, comme l'apôtre Jean aussi dans son épître. Mais les gens qui sont dans une église et qui bouleversent l'église, eh bien il faut leur fermer la bouche. Et au verset 12, il dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchant, bête, vent paresseux. Vous rendez compte? L'apôtre Paul n'a pas peur de citer cet homme qui s'appelait Épiménide et qui était un philosophe crétois, probablement d'origine juive, et qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et qui disait une chose qui était très juste, parce que il y a des psychologues qui savent reconnaître la nature de certains. Et quand on nous dit, nous au Québec, nous sommes des Québécois. Et parce qu'on est Québécois, on est comme ça. Ben non, si vous êtes né de nouveau, vous pouvez être né au Québec, mais ce n'est plus le Québécois qui se montre. C'est Jésus au Québec. Jésus dans le Québécois, et non pas le Québécois. Parce que si c'est le Suisse qui se montre, c'est pas beau non plus. Hein. Il n'est pas question, moi je suis Suisse, toi tu es Québécois, et chez nous c'est comme ça, puis ça doit être comme ça. Non. Que dit l'Écriture? Je veux me laisser enseigner et reprendre par l'Écriture. Et c'est la même pour les Suisses, c'est la même pour les Américains, c'est la même pour les Russes aussi. Cette Écriture. Et c'est elle qui doit former nos pensées. Et en parlant avec la sœur supérieure tout à l'heure, nous disions quand même, l'Écriture nous unit. Quand on revient à l'Écriture, par exemple les phrases que le pape a dit, et qui étaient des phrases de l'Écriture, ça nous rapprochait. Et on pouvait prier pour que ces paroles portent dans beaucoup de cœurs de gens du Québec. Parce que vous savez, il y en a qui analysent au fond ce que sont les Québécois ou ce que sont les Crétois. Bien oui. Puis qui disent la vérité, même sur eux. Les Crétois, qu'est-ce qu'ils sont? Par nature, hein, s'ils sont pas nés de nouveau, toujours menteurs. Vous rendez compte? Toujours menteurs. Les méchants bêtes. Hein, c'est-à-dire, ils vivent d'après leurs instincts. Ils suivent leurs instincts. Méchants bêtes. Ventre paresseux. Je ne vais pas aller plus loin. Paul dit, ce témoignage est vrai. Alors c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, afin que l'enseignement qu'ils donnent soit le vrai enseignement, mais qu'ils n'apportent pas ce que leur nature les pousse à faire. Ma nature me pousse à faire ça, alors pour justifier, j'enseigne cela? Non. Qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques, à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. La vérité, c'est la personne de Jésus. Mais on aime spéculer, on aime entrer en discussion sur des choses qui ne sont pas utiles. Et puis on aime aussi établir des commandements d'hommes. Pour être pur, il ne faut pas faire ceci, pas faire ça, etc. Alors l'apôtre dit, mais alors faites attention de ne pas sortir ce verset, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais comment est-ce qu'on est pur? Quand on a été purifié. Et qu'est-ce qui nous purifie? C'est la parole de Dieu, le lavage de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que notre cœur est purifié. Ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux qui obéissent à la vérité. Ayant purifié vos cœurs par l'obéissance à la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus. Prenez toujours Jésus comme modèle. C'est lui qui est la vérité. Ce sont ses paroles qui sont la vérité. Alors, si Jésus a purifié mon cœur, tout est pur pour ceux qui sont purs. Et si tu étais membré en Jésus, il a touché des femmes adultères. Hein? Des pécheresses s'approchaient de lui pour l'entendre. Mais est-ce qu'il devenait pécheur? Non, il était pur. C'était les autres qui le touchaient qui étaient purifiés, qui étaient sanctifiés. Mais voyez-vous, l'impureté, Jésus l'a dit, ce n'est pas les choses du dehors qui nous souillent. C'est pas le contact avec le monde qui nous souille d'abord. Qu'est-ce que c'est qui nous souille? Le péché qui est dans notre cœur. Et alors, voyez-vous, quand on est souillé, quand on a le cœur souillé, on aime sortir de notre cœur pour imposer toutes sortes de choses, des règles de pureté, hein, se laver les mains, toutes sortes de choses. C'est bien de se laver les mains, c'est pas ce que je veux dire, mais ça. Mais la vraie pureté, c'est pas le lavage des mains, c'est le lavage du cœur. Et Jésus a dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. L'impureté, elle est là. Alors, tout est souillé pour ceux qui sont souillés. Et voyez-vous, ce dont nous avons besoin, c'est de rentrer en nous-mêmes et de nous juger de tout ce qui peut être souillé en nous. Car rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Vous voyez, qui ne croient pas à la puissance de Dieu qui peut les purifier. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Mais si nous laissons la parole de Dieu s'adresser à notre conscience, elle nous purifie. Et le verset 16 qui montre très bien ce que sont ces faux docteurs, ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. On prétend qu'on connaît Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Quand vous les voyez vivre, vous dites, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et il y a une parole qui m'a bien frappé. À l'oratoire Saint-Joseph, Jean-Paul II a dit au prêtre, quand les gens vous regardent, quand les gens vous voient, est-ce qu'ils ont envie du sacerdoce? Hein? C'est une parole qui s'adresse aussi à nous. Quand on nous voit, est-ce qu'on a envie d'être chrétien? Mais d'être chrétien à part entière, d'être chrétien authentique, pas d'être sectaire. Par leur vie, ils le renient, par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Voyez-vous, la vraie connaissance, qu'est-ce que c'est? La connaissance est l'ange. Mais qu'est-ce qui édifie? C'est quoi qui édifie? C'est l'amour. L'amour édifie. La connaissance ange. Mais l'amour édifie. Quelqu'un qui vit avec le Seigneur, il est humble. Il sait déjà qu'il ne connaît pas tout. Que nous ne connaissons qu'en partie. Et que nous avons besoin d'apprendre encore à connaître. Et quand il rencontre un autre, une autre personne, il ne l'aveugle pas par ses connaissances. Il n'essaye pas de lui faire croire que c'est lui qui a raison. Mais il vit de telle manière que sa vie fait envie à l'autre. Et qu'on commence à poser des questions au sujet du secret de notre vie. Et le secret de notre vie, c'est la piété. C'est un attachement à la personne du Seigneur Jésus. Alors, méditez vous-même sur ce premier chapitre. Et quels sont les enseignements que vous avez reçus dans ce chapitre d'un Dieu qui ne peut pas mentir? Et conformons-nous à ces enseignements. Et cet après-midi, nous irons plus loin. Est-ce que vous avez des questions? Notre ami dit qu'il est mentionné quelque part que Christ a été baptisé. Ah oui, il a été baptisé. Il n'est pas mentionné, mais ceux qui croyaient étaient baptisés. Puisque c'était un païen. Alors il portait le signe de la mort de Christ. Il n'y a pas toutes les histoires de tous les baptêmes des croyants. Mais Saul de Tarse lui-même a été baptisé après sa conversion. Alors on peut dire que Tite a certainement été baptisé. Mais il n'a pas été circoncis. Ce n'était pas la marque dans la chair qui comptait. Mais le baptême, c'était son identification au Christ dans sa mort. Il était mort comme grec. Et puis, il était ressuscité en lui, en Jésus. Il avait une vie nouvelle. Or, Dieu les juge, n'est-ce pas, qu'il ait dit ça mais nous avons à juger. C'est-à-dire, quand quelqu'un a cette prétention, par exemple, d'être chrétien, eh bien sûr, on a le droit de chercher à voir dans sa vie des fruits. Mais des fruits qui correspondent à la parole de Dieu. Comprenez-vous? On a le droit, mais... Mais il faut des fruits, parce que sans ça, alors, ils sont incapables de toute bonne œuvre. C'est ce qu'on voit dans le titre, là. Ces gens, n'est-ce pas, qui prétendent vous conduire et qui ne manifestent pas ces fruits, eh bien, n'ont pas d'autorité sur nous. Mais Dieu les jugera. Mais nous n'avons pas à les suivre. Oui, ben alors, là, c'est toute la question de la discipline, nous y viendrons, parce que on peut pas tout dire à la fois, et j'ai dit que nous allons trouver des enseignements dogmatiques, donc de doctrine, des enseignements moraux, et puis des enseignements concernant la discipline. Quand quelqu'un, justement, n'est-ce pas, n'accepte pas qu'on lui fasse une remarque, selon la parole, on le reprend une fois, deux fois, et s'il ne veut pas, on le discipline, on le rejette. Comprenez-vous? Alors, c'est pas parce que je dis qu'il ne faut pas juger, mais je dis, quand on veut toujours juger les autres, mais ça, c'est pas nous qui les jugerons, c'est le Seigneur. J'entends ceux du dehors. Hein. Mais ceux du dedans, si on fait partie d'une communauté, eh bien, il faut vraiment chercher à ce qu'il y ait du fruit qui glorifie Dieu. Ça, vous êtes en droit de l'attendre. Mais, tout de suite, on se dit, mais moi, quel est le fruit que je porte? Comprenez-vous? Et une autre question?
Vous avez dit ça, c'est de juger qu'on ne doit pas juger les anciens. Quand j'ai regardé dans cette variété sur le mot irréprochable, quand on regarde l'étymologie, ça veut dire que c'est pas envie de rencontre pour les anciens, mais que c'est Dieu qui va rencontrer.
Oui, et alors? Il va rendre des comptes à Dieu, d'abord. Mais si l'ancien veut avoir une autorité, il faut qu'il se mette bien dans le cœur qu'il doit vivre d'une façon irréprochable. Et c'est pourquoi un homme qui est ancien, encore jeune, et qui a des enfants jeunes, est-ce que ses enfants marcheront, selon le Seigneur? Alors ça le tient en haleine, il va discipliner ses enfants. Tu peux être nommé ancien quand tu es encore jeune, peut-être, parce que ici, justement, dans le titre, c'est très frappant, parce qu'il faut lire les contrastes. Dans Timothée, il est dit qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'il ne tombe dans le piège du diable. Tandis qu'ici, il n'est pas parlé qu'il ne soit pas nouvellement converti. Il n'y a pas cette clause. De sorte qu'on pourrait être ancien en étant encore jeune dans la foi, mais en ayant quand même cette tension, ce désir constant que mes enfants que j'élève, je dois les élever dans la crainte du Seigneur, pour que je ne perde pas ce caractère d'ancien. Et Josué est arrivé à la fin de sa vie en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il n'avait pas démissionné en disant, parce que j'ai entendu des personnes dire, moi mes enfants, j'en suis plus responsable à partir de tel âge. Ça ne me touche plus. Et on se dit ancien, non. Ça nous touche toujours. Nous avons avec ma femme 15 petits-enfants, mais nous nous sentons responsables encore, même pour nos petits-enfants. On est toujours tenu par la parole. Et c'est quelque chose de quotidien. Il faut bien se pénétrer de cela. Alors vous voyez, c'est pas un titre honorifique, être ancien, C'est une tâche précise qui demande beaucoup de prière, beaucoup de consécration, du jugement de soi-même, pour qu'on ait réellement cette autorité pour parler. Parce que il sera question de parler à des vieillards, il sera question, même quand on est jeune, il sera question de parler à des femmes âgées, à des jeunes filles, à des jeunes gens. Il sera question de donner un enseignement. Mais vous voyez qu'un homme encore jeune converti, je ne parle pas de l'âge naturel, mais je prends un exemple, Corneille par exemple. Hein. Vous connaissez l'histoire de Corneille? Le premier converti païen de l'apôtre Pierre, hein, chapitre 10 du livre des Actes. Mais avant sa conversion au Christ, il avait déjà les caractères d'un ancien. Qu'est-ce qu'il caractérisait? Permettez que je vous lise juste verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de d'aumônes au peuple et priait continuellement. Puis après, quand il a reçu la visite de l'ange du Seigneur et qu'il entend tes prières et tes aumônes sont exaucées, il partage la vision qu'il a eue avec ses soldats. Il appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Donc il avait un bon témoignage même vis-à-vis de ses soldats. Alors, converti au Seigneur, il peut être un ancien parce qu'il en a déjà les caractères. Il avait déjà, même comme païen, les caractères d'un ancien. Et il y a des païens qui ont déjà certains caractères d'anciens, mais qui ne jouissent pas encore de la connaissance du salut, mais qui sont élus. Alors, Pierre a été envoyé pour amener Corneille et tous ceux qui étaient dans cette maison qu'il avait rassemblé à la connaissance du salut, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, en Crète, où l'apôtre Paul n'a fait aussi qu'un court passage, et en particulier lorsqu'il allait à Rome comme prisonnier, bien, les gens, peut-être plusieurs, n'étaient pas des anciens convertis, c'était des jeunes églises. Alors, il fallait quand même établir des anciens, mais il y en a qui avaient peut-être déjà ces caractères. La question, c'est est-ce que nous avons ces caractères? Et une autre question? N'est-ce pas, c'est pas moi qui peux juger pour lui, mais c'est une question qui est entre lui et le Seigneur. Parce que si c'est réellement lui qui nous a appelés, on dit, Seigneur, si tu veux me maintenir, j'ai dû mettre plusieurs fois mon ministère en cause, personnellement. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je continue, agis sur mes enfants. Parce que sans ça, je peux plus. Bien sûr, parce qu'on n'a pas d'autorité. Mais il y a tellement de gens qui ont démissionné, ou alors on a tout permis. On n'a pas discipliné nos enfants. Alors, mais oui, mais un jour ces enfants nous diront, on n'a pas eu de parents, vous étiez mon père et ma mère, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas repris, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas corrigé? Il y en a qui font ce reproche, parce qu'ils sont durs les enfants après, hein. C'est dur pour nous de corriger nos enfants, mais ils nous remercient après, ils nous remercient parce qu'ils, mais tu étais mon père, tu devais me le dire, moi j'étais qu'un gosse, j'étais qu'un gamin, j'étais ébloui par ceci et par ça, toi tu savais, moi je savais pas. Et vous savez, il y a des pères, si on est vraiment parents, on doit résister à nos enfants, mais dans l'amour, en restant amis de nos enfants. Il faut cultiver cette relation. Et je sais que c'est difficile, nous sommes dans des temps fâcheux où les enfants seront rebelles à leurs parents. Alors, évidemment, être ancien, ça demande des responsabilités encore plus grandes. Voilà, je crois que c'est l'heure pour qu'on aille pour le dîner, pour qu'on ne retarde pas. Et si vous avez encore...